grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Le mariage pour tous, la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, l'adoption par des couples homosexuels, des thèmes régulièrement au cœur du débat public. Et ce matin, nous attendons toutes vos questions sur l'homoparentalité. Vous vous interrogez peut-être sur ces nouvelles familles qui coexistent avec des formes plus traditionnelles de parentalité. L'homoparentalité qui suscite parfois des réactions tripales, passionnées. Et on essaie ce matin de décortiquer certaines idées reçus sur ce sujet où l'on marche souvent sur des œufs. Racontez-nous également ce matin votre expérience de famille homoparentale. Avec nous ce matin, Martine Gross, sociologue au CNRS, également psychologue clinicienne et thérapeute familiale, et Marianne Chaillant, professeure de philosophie. Questions, réactions, témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Et avec nous une autre philosophe, professeure de philosophie, Marie Robert, bonjour.
Bonjour Ali.
Et on va retrouver évidemment vos questions sur l'homoparentalité.
Hein ? Exactement.
Dans la petite plaisir. Philosophie de la vie quotidienne. Allez, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour à nos invités, bonjour Martine Gross,
bonjour.
Sociologue au CNRS, vous publiez au Cavalier Bleu, idées reçues sur l'homoparentalité. Marianne Chaillant, bonjour.
Bonjour.
Professeur de philosophie, vous étiez venu dans cette émission parler de la philosophie de Disney ou des chansons populaires. Et vous publiez un livre passionnant, Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ? Où vous passez notamment au crible la PMA ou la GPA. Vous vous demandez si on assiste sur ces débats à des discussions ouvertes, sereines et raisonnables. L'idée pour vous, c'est qu'on essaie de passer, vous essayez de passer de la passion à la raison.
Et c'est pas du luxe en ce moment, on le constate. Hein. On a entendu des déclarations particulièrement violentes et qui ne relèvent clairement pas d'un débat d'idées serein et rationnel. Donc c'était le but de mon livre, de réintroduire un peu de raison dans ces questions-là qui sont très importantes, la PMA, la GPA, mais d'autres questions d'éthique aussi, l'euthanasie par exemple, la prostitution. Je parle un peu de tous ces sujets-là en déplorant qu'à chaque fois qu'on en parle en France, rappelez-vous en 2013 ce qu'on avait vécu à l'occasion du débat pour le mariage pour tous, je me dis que la révision des lois de bioéthique est annoncée maintenant pour le printemps, en même temps que la nouvelle sortie de la dernière saison de Game of Thrones. Et je me dis, winter is coming au printemps cette année. On va retrouver des marcheurs blancs. Et du coup, le but, c'est d'essayer de dépassionner tout ça.
Martine Gross, pourquoi ce livre consacré aux idées reçues sur l'homoparentalité ? C'est pour apaiser les passions sur ces sujets-là ?
Oui, tout à fait. Pour se pencher sur la réalité des familles homoparentales et pour déconstruire certains préjugés ou certaines idées reçues, tout à fait.
Alors, le Robert nous dit que l'homoparentalité, c'est la qualité de parent, de père, de mère, pour un parent homosexuel. Et pour vous, c'est quoi l'homoparentalité, pour la sociologue que vous êtes ?
Alors, la définition que j'en ai donnée dans mon premier Que sais-je, c'était toute situation familiale où au moins un parent s'assume en tant qu'homosexuel. Donc ça regroupe une grande diversité de familles en réalité. Hein. Si on regarde les familles homoparentales, elles sont aussi plurielles que les familles de la société que les familles d'aujourd'hui, puisqu'on y trouve des familles adoptives, des familles recomposées, des familles qui ont recours à la PMA, des familles qui ont recours à la GPA. Bon, on trouve pas un père et une mère mariés avec leurs enfants, mais on trouve toutes les autres formes de nouvelles parentalités d'aujourd'hui.
Alors, des parents homosexuels existent depuis que l'homosexualité existe, mais qu'est-ce qui change avec l'expression famille homoparentale ?
Eh bien, c'est que auparavant, il y a deux décennies, disons, quand on était homosexuel, on renonçait à fonder une famille, ou alors on passait par la case union hétérosexuelle. Donc, il y avait des personnes homosexuelles qui avaient des enfants, mais on n'appelait pas ça une famille homoparentale. On commence à appeler ces familles des familles homoparentales quand les enfants arrivent dans un contexte d'un couple homosexuel, ou au moins lorsqu'un des parents s'assume comme homosexuel et le vit au grand jour.
Alors, première idée reçue tirée de votre ouvrage, l'homoparentalité, c'est l'adoption d'enfants par les homosexuels. Et en exergue de cette affirmation, vous citez l'activiste Frigide Barjot en 2012 qui disait que les couples homosexuels ne peuvent pas avoir d'enfants car il n'y a pas d'ovules dans les testicules.
Oui, l'idée reçue vient du fait que comme les couples homosexuels sont, disons, fonctionnellement infertiles, on imagine que la seule manière pour eux d'être parents, c'est d'adopter des enfants. Ça, c'est la base de l'idée reçue. Et en réalité, si on se penche sur les familles homoparentales, il y a très peu de couples de même sexe qui adoptent des enfants, qui peuvent adopter des enfants, alors même que la loi leur permet depuis 2013 d'adopter en tant que couple. Bon, avant, ils pouvaient adopter, mais en tant que célibataire, en tant que personne seule. Alors même que la loi leur permet d'adopter en tant que couple, ils ne peuvent pas le faire, tout simplement parce qu'il y a très peu d'enfants adoptables. Qu'en France, les conseils de famille qui placent les enfants, à Paris, des enfants adoptables avec des familles candidates, ben finalement, les confient préférentiellement à des couples hétérosexuels ou éventuellement leur confient des enfants à particularité, des enfants grands ou des enfants malades, des enfants handicapés. Bon, donc en France, c'est très difficile. Et puis, il y a une baisse considérable de l'adoption internationale, ce qui fait qu'en réalité, les couples de même sexe, les couples homosexuels ne peuvent pas adopter d'enfants en France ni à l'étranger d'ailleurs. Il n'y a aucun pays qui accepte de confier un enfant à un couple homosexuel. Donc, c'est une idée reçue. Les couples homosexuels adoptent très peu fréquemment des enfants.
Que répondez-vous à ceux qui évoquent l'infertilité fonctionnelle du couple homosexuel avec l'idée qu'il ne faut pas aller contre la nature ?
Ben, je réponds que être parent, ça n'a pas grand-chose à voir avec la nature. Être parent, c'est prendre soin d'un enfant, c'est s'engager à être parent, c'est l'aimer, c'est l'éduquer, c'est l'accompagner jusqu'à l'âge adulte et même au-delà. Ça n'a rien à voir avec ni le sexe, ni l'orientation sexuelle, ni la possibilité d'être fertile. C'est considéré, vous savez, il y a une représentation qui est très très bien partagée, c'est l'idée qu'un vrai parent, un vrai, je mets des guillemets, beaucoup de guillemets pour vrai, ce serait seulement ceux qui peuvent procréer leurs enfants.
Marianne Chaillant.
On pourrait ajouter que cet argument d'aller trop loin contre la nature, dans la mesure où on l'applique pas aux couples hétérosexuels, qui, dans des cas de stérilité auxquels on autorise de procéder à une procréation médicalement assistée, puisque là on autorise à aller trop loin contre la nature, avec des guillemets, dans le cas de ces couples hétérosexuels, on sent bien que c'est pas ça l'argument. Et derrière cet argument, est-ce qu'il se cache pas plutôt une forme d'homophobie refoulée, quoi ?
Marie Robert.
Oui, ce qui me trouble beaucoup dans toutes ces questions, alors là je parle moins en tant que philosophe qu'en tant que directrice d'école, c'est que moi j'ai plein de parents et plein d'enfants et plein de familles très diverses. Et en fait, ce que je trouve plus intéressant, c'est d'accompagner dans la parentalité. En fait, c'est la parentalité en général qui pose question. Moi, je vois bien mes élèves, il y a plein de familles extrêmement différentes, recomposées, il y a des grands-parents, il y a même des cohabitations, il y a des colocations, il y a des familles homoparentales. Donc c'est juste la parentalité qui est une question, finalement, plus que l'homoparentalité en elle-même. Accompagner les gens dans l'éducation de leurs enfants.
Martine Gross.
Oui, d'ailleurs, il y a quand même pas mal. On a pas mal de recul sur ces familles. On a pas mal d'études qui ont comparé le développement des enfants dans les familles homoparentales, dans les autres familles. Ce qui ressort de ces études, au-delà de il y a pas de différence notable sur le développement des enfants. Ce qui ressort aussi, c'est que ce qui compte davantage que la structure familiale de la famille, c'est-à-dire est-ce qu'on est deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, plusieurs parents, c'est pas la structure familiale qui compte, c'est la qualité des relations entre les parents et les enfants et entre les parents eux-mêmes.
Et une idée reçue veut qu'on n'a pas assez de recul sur ces questions-là. On entend généralement cet argument de la part de ceux qui évoquent le principe de précaution, Martine Gross.
Bon, déjà, le principe de précaution, on n'est pas dans l'écologie, hein, mais bon.
Je vous cite.
Hein. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. En fait, il faut quand même voir que des études se sont penchées sur ces familles depuis les années 1970. Donc ça fait maintenant plus de quatre décennies où on a des études. On peut pas dire qu'on n'a pas de recul. Voilà.
Marianne Chaillant.
Un principe de précaution contre quoi, en fait ça m'étonne. Enfin, est-ce que ce même principe est à l'œuvre quand deux futurs parents hétérosexuels réfléchissent à faire un enfant? Est-ce que même réfléchissent à cela? J'ai un ami psychiatre qui m'a dit hier, en fait, c'est la parentalité qui est le casse-gueule pour tous. Hein, et du coup, pourquoi sectionner et s'interroger uniquement sur cette question des couples homosexuels?
Marie-Robert.
Je suis bien d'accord. Moi, ce à quoi j'assiste de plus en plus, on propose d'ailleurs des formations pour l'accueil des enfants, c'est juste des parents démunis, quel que soit le cas de figure, c'est-à-dire quelle est la bonne décision, mais démunis sur tous les sujets. Dans la question de l'homoparentalité, pour moi, c'est plus aussi armer les enfants, mais peut-être qu'on va en parler, face aux questions. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois dans la cour d'école, c'est surtout des questions des autres enfants à l'égard d'enfants issus d'une famille parentale. Oui, et c'est là où je pense qu'il faut travailler aussi le propos.
Oui, je pense que c'est effectivement, si on doit avoir une inquiétude par rapport aux enfants de famille homoparentale, c'est bien celle-là, c'est le regard que pose la société sur l'homosexualité, sur l'homoparentalité. Et les parents ont effectivement la crainte que leurs enfants soient stigmatisés à cause de leur situation familiale un peu différente. Alors, les parents arment les enfants, leur parlent de personnes qui ont du mal avec la différence, qui ne sont pas tolérants, qui peuvent être homophobes. Ce qui est important pour les enfants, c'est aussi de sentir que sa famille, que leur famille est estimée dans l'entourage. Dans l'entourage. C'est que la famille n'est pas isolée, qu'elle est dans un réseau social qui l'apprécie et qui l'estime. Et ça, c'est très très important pour l'enfant. Et il y a eu des études sur ce sujet-là et qui ont montré que le fait d'être bien entouré, d'avoir un réseau familial et social qui soutient cette famille et qui estime cette famille et qui considère que cette famille est une famille comme une autre, qui est une bonne famille, eh bien ces enfants sont mieux armés que s'ils n'avaient pas cet environnement-là. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué dans une étude que moi j'ai menée auprès de mères lesbiennes, pour leur demander qu'est-ce qu'elles avaient, comment elles préparaient l'homophobie à l'école, le risque d'homophobie à l'école. Et ce que j'ai trouvé, c'était très intéressant, c'est que ces personnes ont deux stratégies, elles appellent pas ça des stratégies, mais c'est d'une part être très présente dans l'univers scolaire de l'enfant. Ces familles, en tout cas en primaire et en maternelle, viennent voir les enseignants, viennent voir la directrice de l'école, le directeur ou la directrice de l'école au moment de l'inscription, décrivent leur famille et prennent part à la vie de l'univers scolaire. Ils sont délégués de classe, ils sont membres d'une association de parents d'élèves. Ça, c'est la première stratégie, c'est d'être là, de participer à des sorties, ce qui fait que leur famille devient une famille comme une autre, une famille banale. On s'habitue à voir deux mamans ou deux papas. La deuxième stratégie, c'est un peu du même ordre, mais avec les enfants. C'est-à-dire qu'on va encourager l'enfant à inviter d'autres enfants à la maison, à jouer à la maison. C'est ce que j'appelle la stratégie de la maison ouverte.
Allez, nous attendons toutes vos questions, vos interrogations, vos doutes sur l'homoparentalité au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Laura Laplot et c'est réalisé par Claire Destacan. Je vous propose d'écouter Seul le chien, un extrait de l'album inédit d'Alain Bachung à découvrir tout au long de la journée sur France Inter.
Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. La paumée, cette enclume où tout est dessiné, et l'étoile et la lune. Et le cœur démarré, toutes les lignes tracées, roule pour la solitude, ce ventre constellé de manquer d'habitude.
Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. Type tordu, corps fiévreux, aux mains amples aux romances, promises aux contredanses, aux créneaux hasardeux, ils narguent des sirènes, leurs chanteuses des adieux, du feutre sur les yeux. Plus tard, quand ils reviennent, seul le chien se souvient, seul le chien les attend. Dommage qu'ils vivent si peu de temps. C'est la dernière étoile que je vois s'allumer, c'est le dernier soupir que je m'entends pousser, qu'on me porte, qu'on m'installe, qu'on me donne à chauffer une dernière salle que je vois défiler. Un à un, ces visages pour qui j'aurais compté, mais l'heure a beau tourner, au milieu de la salle, seul un chien me regarde. Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps.
Alain Bachung, Seul le chien, et vous pouvez découvrir un nouvel extrait de l'album inédit d'Alain Bachung dans La Tête au Carré tout à l'heure entre 14 et 15 heures.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h24 et ce matin nous attendons toutes vos questions sur l'homoparentalité avec la sociologue Martine Gross et la professeure de philosophie Marianne Chaillant qui vous répondent au 01 45 24 7000. Martine Gross, je rappelle que vous publiez Idées reçues sur l'homoparentalité. Une idée reçue veut qu'être homosexuel ou être parent, bah, il faut choisir. Hein. Ça revient souvent ça. Hein.
Oui, et d'ailleurs, même certains homosexuels disent la même chose, renoncent à fonder une famille parce que ça leur semble incompatible et qu'il faut un papa et une maman, il faut forcément une union hétérosexuelle. Et donc, il est vrai que l'homoparentalité, on en parle depuis les années 1990, et qu'auparavant, comme je le disais tout à l'heure, justement... Quand on était homosexuel, quand on découvrait ses préférences homosexuelles, on se disait il faut que je renonce à avoir des enfants, ou alors il fallait passer par la case hétérosexualité, quitte à finalement vivre son homosexualité beaucoup plus tard, avec des difficultés pour assumer de le dire aux enfants, de changer de vie. Aujourd'hui, quand on regarde le public des associations homoparentales, des associations de familles homoparentales, on se rend compte que on a des gens beaucoup plus jeunes que le public qui fréquentait ces associations dans les années 90. Au début des années 90, on avait on avait surtout des personnes qui avaient vécu en couple hétérosexuel, qui avaient des enfants et qui se demandaient comment faire pour leur dire se séparer et assumer son homosexualité. Aujourd'hui, on a des jeunes d'une vingtaine d'années qui viennent, qui disent bon, je veux pas être parent tout de suite, mais je me renseigne quand même parce que donc il y a une espèce, il y a plus d'estime de soi avec l'évolution des mentalités, l'évolution de la société du regard sur l'homosexualité, même si l'homophobie n'a pas disparu malheureusement. Mais il y a quand même une évolution qui a touché les homosexuels eux-mêmes et qui leur permettent maintenant d'estimer être tout à fait en mesure de fonder une famille homoparentale.
Marianne Chaillant.
Peut-être il faut rappeler aussi la raison pour laquelle ceux qui s'opposent à l'homoparentalité ne prétendent pas le faire au nom du caractère homosexuel des couples concernés, mais au nom de deux raisons qui sont l'intérêt de l'enfant. Hein, je cite leur argument, je les reprends pas, je les cite. Et le second, c'est le refus de la marchandisation du corps, parce que pour ces couples, effectivement, homosexuels, devenir parent, ça, comme vous avez dit, c'est pas l'adoption le moyen privilégié, donc c'est avoir recours à des techniques de procréation médicalement assistée, donc une PMA ou une GPA. Et c'est ça les deux arguments qui sont avancés, qui paraissent rationnels, qui parfois même certains qui viennent sur les plateaux expliquer, qui essayent de revêtir leur discours de raison, comme Cécilia Nagas. Gassinski, par exemple, qui sort ce discours pour dire que c'est particulièrement indigne et immoral d'instrumentaliser le corps des femmes, ces mères porteuses, dans le cadre de la GPA, ou cette marchandisation des gamètes. C'est l'argument qu'on a entendu cette semaine. Je les reprends pas, je les cite, mais ils essayent de placer le débat dans une forme de rationalité, mais justement, il faudrait l'interroger, cette rationalité. Est-ce que ces arguments sont recevables? Et si on réfléchit bien, on voit bien qu'ils tiennent pas la route. Et donc, bon, c'est ce que j'essaye de faire dans le livre.
Vous croyez penser ?
D'opposer des arguments qui relèvent d'une morale qui se voudrait qu'ancienne à des arguments d'une morale minimaliste de notre cher Ruven Augien. Et puis aussi, c'est pas inutile de rappeler, pour tous ceux qui se revendiquent de Kant, comme la philosophe que vous avez citée, que Kant fait une distinction entre la morale et le droit, et que ces gens-là ont très bien le droit pour eux-mêmes de s'opposer à titre personnel, de trouver ça immoral, mais pourquoi légiférer pour tous et priver certains d'exercer leur liberté ? Il y a une différence entre la morale et le droit.
Et Martine Gross, que répondez-vous à ceux qui, de bonne foi, pensent que l'homosexualité et la parentalité sont incompatibles, car il reste attaché à l'équation parent égale géniteur. Certains ont du mal à penser la parentalité en dehors de la procréation.
Oui, mais c'est exactement le problème. Tant qu'on confondra la dimension biologique et la dimension instituée de la filiation, parce qu'il faut quand même voir que la filiation, c'est pas quelque chose lié à la nature ou à la procréation. C'est le lien juridique qui est institué entre des adultes et un enfant. Et tant qu'on confondra la dimension biologique et la dimension juridique légale instituée, on aura ce problème-là. Il faut quand même, je voudrais quand même dire que tout est fait dans notre droit pour faire passer les parents pour des géniteurs. Si on prend la manière dont l'adoption a été organisée, elle a été organisée pendant longtemps comme une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'elle était réservée aux couples hétérosexuels mariés. Bon, il y a une brèche avec le mariage pour tous et la possibilité d'adoption. Et pour la PMA, il y a quand même quelque chose de très important qu'il faut signaler. C'est que un couple hétérosexuel dont l'homme est stérile va avoir recours à un don de sperme et va passer pour être le géniteur de son enfant. Il est le père, mais il n'est pas le géniteur. Mais tout est organisé dans la manière dont s'est fait la PMA avec tiers donneur pour que le père puisse passer pour avoir procréé son enfant.
Marianne Chaillant.
Oui, c'est ce que je voulais rappeler. Dans les couples hétérosexuels, la filiation ne se fait pas toujours par des voies naturelles. Et donc, c'est un faux argument que de dire qu'il faut rejeter l'homoparentalité au nom d'une naturalité nécessaire de la parentalité. Et puis, je voudrais ajouter aussi que pour ce qui est de la PMA et de la GPA, on centre ça sur des questions homoparentales, mais il n'y a pas que des homos. Et ça ne suscitait pas la panique morale. Je suis sûre que vos auditeurs, comme moi et comme vous peut-être, regardez la série Friends. Mm-hmm. Vous regardiez Friends ?
Bien sûr, évidemment.
Est-ce que vous vous rappelez de Phoebe, ce personnage extrêmement savoureux qui a fait une GPA ? Est-ce que vous aviez été choqués quand vous avez vu Phoebe porter des enfants pour... Et aucune panique panique morale. Dans Desperate Housewives, on a vu aussi des parents homo adoptés, aucune panique morale. Faut-il vraiment qu'on soit des homophobes refoulés pour susciter ce débat-là ?
Et Marty Gross, vous citez Boris Cyrulnik, le célèbre psychiatre et éthologue, qui se demande dans le Nouvel Observateur en 2013, n'y a-t-il vraiment qu'une seule manière d'élever un enfant ? Faut-il ne lui offrir qu'un seul foyer constitué par un homme et une femme, unis par Dieu pour l'éternité ? Bonjour Audrey, bienvenue, vous appelez de la Creuse, de Guéret.
Oui, bonjour Ali Rébéi, bonjour à vos invités.
On écoute votre témoignage Audrey.
Donc mon témoignage, c'était pour faire part de ma famille, qui est composée par ma frangine, qui a eu une petite fille, grâce à un homme qui a bien voulu lui donner du sperme. Donc ma sœur vit en couple et est mariée avec une autre femme qui elle aussi a eu un enfant de cette manière-là il y a pas mal d'années maintenant. Et donc voilà, et c'était pour faire part du fait que avant que ma sœur devienne maman, m'annonce qu'elle allait être maman, je pensais comme beaucoup de personnes parce que j'avais besoin d'une bonne psychanalyse, comme je dis. Voilà, j'étais très effrayée par la vie, par tout ce qu'on entend, et du coup, j'avais besoin que tout soit carré, corresponde à un... voilà, que tout rentre dans la case, quoi. Comme ça, on est rassuré et y a un côté rassurant. Et quand ma sœur m'a annoncé ça, j'étais complètement déstabilisée.
Qu'est-ce qui vous a fait évoluer, Audrey?
Je pense l'amour que j'ai pour ma sœur et sa femme. Je me suis dit, quand j'ai vu ma réaction, le chagrin que ça a provoqué chez elle, je me suis dit, c'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et voilà, après, un jour après l'autre, elles ont eu la sagesse de pas me refermer la porte au nez, parce qu'elles auraient pu. Et du coup, un jour après l'autre, je me suis rendu compte que déjà j'ai commencé rapidement par me dire que j'étais pas là pour les juger, qu'elles faisaient leur propre choix et qu'elles cherchaient à faire de mal à personne. Donc déjà ça m'a permis de m'apaiser rapidement. Et puis voilà. Et puis après, l'histoire du gamète mâle et de la gamète femelle. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est l'éducation et être une famille. C'est ce que disaient vos invités aujourd'hui, quoi. C'est
Martine Gross.
Deux choses différentes.
Oui. Pardon. Oui, je voudrais signaler quand même, on a entendu dans les manifestations des opposants de la Manif pour tous ou d'autres opposants, on ne ment pas aux enfants. Et ça, c'est quand même terrible parce que finalement, les couples homosexuels qui ont des enfants sont bien les seuls qui ne mentent jamais aux enfants sur la manière dont ils ont été conçus, dont ils sont arrivés au monde. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont tentés de mentir, c'est les couples hétérosexuels qui ont recours à un don de gamètes et qui passent pour être les géniteurs de leurs enfants. Alors que, évidemment, qu'on dit comment on a procréé ces enfants. Puis je voudrais signaler aussi que la plupart des couples de femmes ont recours à la PMA. Donc se rendre à l'étranger pour bénéficier d'un don de gamètes. Mais il y a pas mal de femmes aussi, comme notre auditrice, comme la sœur de notre auditrice, qui ont recours à un ami, une connaissance, c'est ce qu'on appelle un donneur connu, tout simplement parce que elles veulent que l'enfant puisse connaître ses origines, puisse connaître son géniteur.
Et à Marianne Chaillant, sur le témoignage d'Audrey.
Ce qui m'a frappé, c'est que quand vous lui avez demandé ce qui l'a fait évoluer, elle a dit que c'était l'amour qu'elle avait pour sa sœur. Et je trouvais ça très beau. Et ça m'a fait penser à quelque chose de beaucoup moins beau, qui est ces gens de la Manif pour tous, que vous vous rappeliez, et qui prétendent s'opposer à ces choses-là au nom de l'amour des enfants. Et je trouve ça terrible qu'au nom de l'amour, on pousse de tels cris de haine, parce que finalement, ces propos sont extrêmement haineux, extrêmement violents pour les enfants et pour les couples. Parce qu'il faut peut-être rappeler aussi l'énorme difficulté de ces couples qui traversent des protocoles de PMA et de GPA. C'est extrêmement dur, physiquement, psychologiquement. Et au moins, vous rappelez, avec ces couples-là qui traversent ces expériences, on est sûr au moins que l'enfant a été désiré. C'est le fruit d'un désir. Et c'est pas rien pour un enfant que de se savoir le fruit d'un réel désir.
Tiens, que diriez-vous à la sociologue Nathalie Hennich pour qui revendiquer la prise en compte d'une particularité individuelle telle que la pratique sexuelle dans l'allocation des droits civiques et civils constitue une perversion de l'idéal républicain. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'argument qui peut être admissible, Martine Gross?
Mais c'est pas au nom de la différence sexuelle, c'est pas au nom de l'orientation sexuelle que ces personnes souhaitent pouvoir accéder aux techniques leur permettant d'accéder à la parentalité. Si vous voulez, il y a une liberté procréative qui est illimitée pour tout le monde, sauf quand on a besoin d'aide et c'est particulièrement les couples homosexuels qui sont visés lorsqu'on dit « Oh, mais il n'y a pas de droit à l'enfant, par exemple ».
C'est vrai, je souscris complètement. Quand vous pensez que Kim Kardashian a eu son troisième enfant par GPA et que tout le monde s'en réjouit, personne n'y trouve rien à redire, on voit bien que l'argument est fallacieux. C'est pas du tout la question de l'homosexualité qui est en... Enfin, qui est, voilà, c'est pas au nom de l'homosexualité, c'est pour être comme tout le monde.
Kim Kardashian, la starlette de la télé-réalité. Audrey, vous restez avec nous, on accueille Bénédicte. Bonjour Bénédicte.
Bonjour.
D'où appelez-vous Bénédicte ?
De Haute-Savoie.
Alors vous avez, je crois, réalisé une PMA en tant que personne célibataire en Belgique, c'est ça ?
Oui.
Votre enfant a 4 mois. Et alors, quel regard vous portez sur les couples homosexuels qui ont recours à la PMA ?
Alors en fait, moi je trouve ça formidable que les personnes homosexuelles aient des enfants. Vraiment, l'amour est le plus important, effectivement. Mais ce qui me pose question, en fait, pas souci, mais question... C'est plutôt la question de la GPA, parce que je me demande finalement si le fait de recourir à quelqu'un d'extérieur, surtout quand la personne est inconnue, n'amène pas au fond une forme de commerce.
Question,
c'est une question vraiment ouverte.
Question très intéressante que beaucoup de gens se posent. Hein, Marianne Chaillant, qu'est-ce qu'on peut répondre ?
Oui, c'est l'argument que selon lequel instrumentaliser son propre corps ou instrumentaliser le corps d'autrui serait immoral. C'est un argument qui tient la route dans un système moral, qui est celui de Kant, mais dans d'autres systèmes moraux, et je ne sais pas, du coup, il faut que vous vous interrogiez, quels sont vraiment vos principes moraux, mais est-ce que vous ne pensez pas que deux adultes consentants peuvent faire ce qui leur plaît à partir du moment où ils sont consentants, qu'ils se sont engagés dans un accord mutuel qui n'a pas été extorqué. Et du coup, si une dame l'altruisme, la générosité d'offrir son corps pour permettre à un couple de mener à bien son désir d'enfant, au fond, de quel droit jugerions-nous ce qu'elle fait ?
Martine Gross.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Bon, il y a effectivement la question, cette question de la marchandisation ou du commerce des corps, c'est une question qu'il faut se poser. Il y a certains pays où effectivement les femmes qui consentent à porter un enfant pour autrui vivent dans la misère et que c'est une manière pour elles d'améliorer leurs conditions de vie. Il faut bien réaliser que si on encadrait la GPA en France, on éviterait justement ce problème de la marchandisation et de la commercialisation parce qu'on mettrait en place un encadrement qui permettrait d'éviter cela et de faire la GPA selon nos valeurs éthiques. Il faut quand même réaliser, alors je rebondis sur ce qu'a dit Bénédicte, surtout quand c'est une personne inconnue. Moi j'ai mené des enquêtes auprès de pères gays qui avaient eu recours à la GPA. Ces femmes n'étaient jamais des inconnues. Non seulement elles sont pas des inconnues, mais très souvent, les liens sont maintenus avec elles après la naissance de l'enfant.
Et nous avons reçu il y a quelques semaines le journaliste Marc-Olivier Feugiel qui nous raconte le maintien des liens très forts avec Absolument. Les femmes qui ont porté ces enfants. Bénédicte, restez avec nous. On accueille Alison de Lyon. Bonjour Alison.
Bonjour.
Bienvenue. Alors vous êtes maman de 3 enfants, c'est ça ? Et vous êtes enceinte du 4e par GPA ?
C'est tout à fait ça.
Alors, nous vous écoutons.
Par PMA, pardon,
parce que j'ai une mauvaise information sur ma fiche. Par PMA, donc voilà, on vous écoute, Alison.
Donc moi j'ai 3 enfants actuellement, vous l'avez dit. Je les ai eus la première en 2009, ensuite j'ai eu des jumeaux en 2013. Et je suis enceinte donc de notre petit 4e qui va naître en février de cette année, donc grâce à une procréation médicalement assistée en Espagne. Et je me retrouve beaucoup dans le portrait qu'a décrit Martine Gross des familles homoparentales et des stratégies mises en place, au sens où effectivement je pratique la maison ouverte, je suis déléguée de parents d'élèves voilà, c'est effectivement, j'avoue, c'est un peu une caricature de maman lesbienne. Mmh. Je voulais juste revenir sur ce que Martine Gross disait sur le fait de ne pas mentir aux enfants, qui est l'argument un peu de la manif pour tous. Ça nous fait rire jaune parce que s'il y a bien une famille qui ment pas à ses enfants, c'est la famille homoparentale, parce que tout le monde en connaît, les enfants ils sont pas stupides, ils ont bien compris qu'il fallait des gamètes mâles, des gamètes femelles, même si on en parle en d'autres termes, hein, des graines de monsieur, des graines de dame. Mmh. Donc non, on leur ment pas, au contraire, on en parle tout le temps, peut-être même trop, puisque finalement ils s'en fichent un peu, puisque dans leur quotidien, ça n'a pas tant de place que ça, ce donneur, mais... On en parle beaucoup.
Merci beaucoup, Alison. Merci également à Bénédicte et à Audrey de nous avoir appelés. Marie-Robert, quelle réflexion vous inspire l'homoparentalité dans votre petite philosophie de la vie quotidienne ?
Je crois. Alors, j'ai été très touchée par déjà le témoignage d'Alison, parce qu'effectivement, je pense que les enfants sont des individus extrêmement conscients et qu'en fait, c'est une question qui se dissout très vite. J'en parlais tout à l'heure, hein, l'idée de dire finalement, maman préfère les femmes. Bon, voilà, c'est terminé et c'est très simple et on l'aborde plus facilement. Non, ce que je voulais évoquer, dont on n'a pas parlé, mais souvent dans les discussions autour de la crainte de l'homoparentalité, en fait, ce qui revient, c'est la crainte d'une double paternité ou d'une double maternité, avec l'idée que l'enfant n'aurait pas suffisamment de modèle. Alors déjà, c'est une drôle de vision, parce que c'est confondre ces pensées, l'idée du père comme l'incarnation de l'autorité, la mère, l'incarnation de la douceur. Bon, alors ça, évidemment, c'est non seulement infiniment réducteur, mais surtout, ça ne correspond à aucune réalité, aucun sens de la nuance. Et surtout, en fait, c'est confondre la paternité avec l'idée d'un patriarcat. Et donc confondre en fait une notion juridique où on donnait au père l'autorité, parce qu'on n'était pas tout à fait sûr que ce soit le père. Donc il fallait bien lui donner quelque chose. Et dès le Moyen-Âge, d'ailleurs, la construction juridique du droit du père se fonde sur ça. Sur ce doute, on est sûr de la mère, le père on n'est pas tout à fait sûr, donc on lui attribue l'autorité. Et en fait, c'est complètement méconnaître une réalité. Je veux dire, la question de l'autorité ou d'une pseudo-fermeté n'est pas du tout une question de genre. Il y a évidemment des pères qui vont être extrêmement tendres, présents, bienveillants, de plus en plus d'ailleurs dans un accompagnement des enfants. À l'inverse, des mères qui vont beaucoup plus incarner les limites et l'autorité. Donc c'est ça qui est troublant, c'est de se dire que dans la vie quotidienne, justement, et là plus en directrice d'école, encore une fois, on voit la diversité des modèles. Et surtout, je reviens sur quelque chose que vous avez dit dans l'idée de la maison ouverte et l'idée de sentir sa famille estimée. Une famille, il y a aussi plein de référents. Il y a des oncles, des tantes, des grands-parents, des copains. Donc évidemment qu'un enfant sera nourri de toute façon par différents modèles. Et ça me semble très important, ne pas craindre cette double paternité ou cette double maternité.
La petite philosophie de la vie quotidienne, cette semaine avec Marie-Robert, à retrouver en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez à suivre le reportage de notre grand reporter Antoine Lee, qui est allé à la rencontre d'un couple gay qui a adopté un petit garçon. Et nous attendons toutes vos questions, vos interrogations, vos doutes légitimes sur l'homoparentalité au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.
act if I had been a fool and thought I was in love with you. I need to grow and find myself before I let somebody love me. Cause at the moment I don't know me. Well, I was told by my father, if I look into the future, do I really see this boy that I think I've fallen for? And I was told by my mother, if I look into the future, do I really see this boy that I think I've fallen for? We all want a teenage fantasy. Want it when we can't have it. When we got it, we don't seem to want it. No. We all want a teenage fantasy. Want it when we can't have it. When we got it, we don't seem to want it.
When we are fit in, there's no need to rush. Take your time, life's a big old ride. Sit back and enjoy the ride. When we are young, we'll want someone who we think is the one. Just to fit in, there's no need to rush. Take your time. Have it. When we got it, we don't seem to want it. We all want a teenage fantasy. Want it when we can't have it. When we got it, we don't seem to want it.
Georgia Smith, Teenage Fantasy.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h48 et ce matin, nous attendons toutes vos questions sur l'homoparentalité au 01 45 24 7000. Antoine Lee, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter de l'émission, vous êtes parti à la rencontre d'une famille homoparentale.
Oui, il s'agit de Damien et Sébastien, ils sont mariés, ils vivent en région parisienne, ils sont aujourd'hui les heureux parents de Hugo, un beau bébé de 21 mois. Ils font partie de ces rares couples gays qui ont pu adopter. Leur petit garçon blond aux yeux bleus était au départ pupille de l'État. Le couple a attendu 4 ans avant de voir sa demande d'adoption aboutir. Et j'ai donc d'abord rencontré Damien au moment où il allait récupérer Hugo chez la nounou.
Veuillez patienter, nous traitons votre appel.
Oui ?
Oui, bonsoir, c'est Damien.
D'accord. Vous pouvez entrer.
Et tous les soirs, c'est vous qui allez le chercher ou parfois c'est votre compagnon, votre mari ?
Ça dépend des fois. En règle générale, moi, c'est plutôt le soir et lui, il l'amène le matin. Coucou, Hugo. Bonsoir.
Un papa.
Fais un bisou. Passez une bonne journée. Oui.
Un bateau.
Voilà. Enchanté, Antoine.
Oui, Clémentine.
Est-ce que le fait que vous soyez un couple homosexuel, est-ce que ça posait un problème pour trouver une nounou ?
Il y a juste une nounou, en fait, qui n'a pas été très accueillante, mais en fait, sur toutes les autres, il n'y a pas eu de souci. Ça nous a un peu énervé sur le moment, et en même temps, on se disait, bon, c'est pas très grave. À la limite, nous, vous voyez, pour Hugo, on se disait, bah, il vaut mieux que ce soit maintenant et qu'après, on soit tranquille et que ça se passe bien, et on est passé à autre chose assez rapidement, en fait.
Est-ce que vous, Clémentine, vous avez été surprise de voir que les parents d'Hugo, c'était deux hommes ?
Moi, ils m'ont confié le petit, c'est le petit que je m'en occupe, donc le reste, ça me regarde pas du tout. Et puis, ils sont bien, si. Les gens les apprécient beaucoup, hein, surtout mes collègues. Eh oui, elles me disent que les deux sont trop mignons, c'est oui.
Papa.
Tu vas rentrer dans ta maison avec papa ?
Au revoir.
Au revoir.
Salut, bonsoir.
Ah, c'est une voisine ?
C'est ça.
Dans le quartier, tout le monde sait que Hugo a deux papas ?
J'imagine que oui, enfin on se cache pas, on va le chercher à la nounou, on va au parc, on va au bébé dans l'eau, donc tous les trois, donc on vit, on fait ce qu'on a à faire.
Et ça pose pas de problème ?
Jusqu'ici, non.
Et ici, on va au bus.
Ouais, il y a le bus aussi, c'est trop bien.
On est arrivé chez vous, là ?
Oui, exactement.
Hey ! Salut bébé !
On va qui ?
Bonjour. Antoine. Vous nous présentez qui, Damien ?
Sébastien, mon mari.
papa.
Ah, c'est papa aussi.
Oui, exactement.
Vous vous appelez tous les deux papa.
Oui, oui, oui. On aime bien.
Sébastien, comment est née l'idée d'avoir un enfant, tous les deux?
Pour moi, Thomas, ça a toujours été un désir très fort, et pour Damien aussi, je crois.
Et est-ce que vous vous êtes dit, ça va être dur parce qu'on est deux hommes?
On pensait même pas que ça fonctionnerait, en fait.
Ah ouais?
Bah, pendant toutes les démarches, finalement, on nous a souvent posé la question, est-ce que vous pensez que deux hommes peuvent élever un enfant? Enfin, des choses comme ça. Et que probablement être deux hommes était aussi un facteur de complexification supplémentaire.
C'est quoi ça, Hugo? C'est quoi?
Un paquet.
Il parle ton camion? Bon, c'est le micro, là, maintenant qu'il est avec ses jouets, c'est plus la peine.
Venez, mes amis, prenez place avec moi. Partons dans les terres ou près de la mer.
Comment vous allez lui dire qu'il a deux papas?
Je crois que l'idée, c'est justement d'essayer de dédramatiser la chose et d'en parler le plus normalement possible, en fait. Et qu'il n'ait pas l'impression que ça soit quelque chose de honteux ou à cacher, quoi. Que ce soit facile pour lui à vivre.
Là, Hugo est passé à table. Bon appétit.
Merci.
C'est bon?
Au revoir.
Au revoir.
Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous adresser à l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens.
Reportage signé Antoine Lee. Un message sur notre page Facebook. Sarah nous demande, un deuxième père peut-il réellement totalement remplacer une mère pour un enfant? L'idée me semble difficilement convaincante. Martine Gross, je rappelle que vous êtes sociologue et que vous publiez « Idées reçues sur l'homoparentalité ».
Oui, alors oui. En fait, l'enfant va s'attacher aux personnes qui prennent soin de lui. Et si les deux papas prennent soin de lui, l'aiment, s'en occupent, l'entourent, eh bien, l'enfant ne manquera pas de mère, en fait. Hein. Il va s'attacher aux personnes qui s'occupent de lui. D'ailleurs, il y a un psychologue qui s'appelle Michael Lamb qui travaille sur la paternité, pas seulement sur l'homoparentalité, mais également sur l'homoparentalité, et qui a montré, parce que pendant longtemps, on a parlé de l'attachement comme étant quelque chose qui se produisait entre un enfant et sa mère. Et lui, il a montré que ça pouvait se produire non seulement avec sa mère, mais ça pouvait se produire avec son père et que ça pouvait se produire avec plusieurs personnes. Et
il existe cette idée reçue, hein, qu'un père n'est pas vraiment compétent pour élever un tout petit. Et d'ailleurs, est-ce qu'on oppose ce genre d'argument dans le cas fréquent où des pères hétérosexuels élèvent seuls leurs enfants alors qu'ils ne vivent pas ou plus avec la mère de leurs enfants?
Alors oui, on le pose aussi pour les papas en solo, ils sont aussi un peu stigmatisés, on leur demande souvent où elle est la mère, comme s'ils pouvaient pas être à eux tout seuls un parent compétent. En fait, ça vient vraiment d'une idée reçue selon laquelle finalement les soins aux tout petits sont du domaine maternel, c'est la prééminence maternelle et que les pères ne seraient pas capables, compétents pour s'occuper des tout petits. Or on voit en fait que c'est de moins en moins vrai. Il y a beaucoup de pères qui maintenant placent leur paternité non pas dans la représentation de la loi ou dans l'autorité ou dans le tiers séparateur, comme on dit, mais qui sont dans le relationnel avec l'enfant. Pas seulement chez les pères gays, mais les pères gays sont résolument de ces nouveaux pères qui placent leur paternité dans le relationnel avec l'enfant.
Marianne Chaillon.
Sous ces questions donc de la PMA et de la GPA, je dirais qu'on entend vraiment beaucoup d'horreurs. On a entendu cette semaine comparer la PMA à l'eugénisme et au nazisme. C'est abominable. On a entendu
Laurent Wauquiez, le président des Républicains.
Oui, c'est très triste. Hein. On est bien loin de Simone Veil et de Lucien Neuwirth, autre figure de la droite républicaine qui n'était pas si réactionnaire ou si atroce dans leurs propos. On voit bien qu'on a besoin de raison. Il y aurait des arguments recevables. On a parlé tout à l'heure de l'idée que la marchandisation du corps pourrait porter atteinte à la dignité des femmes. Après tout, chacun son système éthique. Pourquoi pas penser cela? Mais pourquoi vouloir ériger son éthique personnelle en éthique pour tous? Ça me paraît une vraie question. On a le droit, au fond, moralement, d'avoir ses principes. Mais encore une fois, pourquoi vouloir ériger ses principes en principe pour tous?
Ce qui est terrible, c'est que quand on entend des choses aussi horribles, il faut quand même réaliser que les enfants aussi entendent ces choses horribles.
Du mal.
et ça leur fait du mal.
Parmi les choses horribles, le crime de pédophilie qui rôde autour des pères gays qui élèvent un enfant. Hein. N'oublions pas, vous le citez dans votre ouvrage, Martine Gross, que selon une série d'études très sérieuses, la majorité des abus sexuels sur les enfants sont commis par des hommes hétérosexuels.
Par des hommes hétérosexuels sur des petites filles. Donc c'est...
Études notamment de Carole Jenny et Thomas Rössler dans la revue médicale Pediatrics que vous citez. Bonjour Olivia, bienvenue.
Oui. Bonjour.
Nous écoutons votre témoignage. Vous appelez de Saint-Apollinaire.
Voilà, tout à fait.
C'est joli, ça, Saint-Apollinaire.
N'est-ce pas ?
C'est où d'ailleurs ? C'est où ?
C'est juste à côté de Dijon.
Allez, on écoute votre témoignage, Olivia.
Eh bien, je voulais juste témoigner parce que j'étais adoptée par deux mamans. Donc, dans les années 70. Alors, évidemment, il y en a qu'une qui, au départ, a pu m'adopter. Mais je me suis jamais posé de questions. J'ai toujours eu deux mamans. J'ai eu peu de réflexions au collège, j'en ai eu quelques-unes, mais je pense que j'ai peu réagi parce que ma famille, globale adoptive, n'a jamais fait de différence avec notre cellule familiale et avec les autres. Et par contre, mes mamans étaient nées en 1925 et 1924, et j'ai mis vraiment du temps à me rendre compte qu'elles étaient un couple homosexuel, car j'ai jamais surpris de gestes intimes. Et c'est il y a une dizaine d'années, lorsque ma deuxième maman était en fin de vie, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez jamais dit enfant que vous étiez un couple? Et là, la réaction a été très virulente et m'a surprise. Elle me dit, mais enfin, pourquoi tu dis ça? On n'était pas des goudous, on était deux mamans, on t'aimait. Et voilà, donc j'avoue que j'ai pas poussé plus parce qu'elle n'était pas en état non plus. Et ça m'a beaucoup surpris. Donc j'en ai parlé du coup à ma famille, à mes cousins, à mes oncles et tantes. Je dis, mais c'est drôle, maman a une réaction vraiment bizarre. Pourtant, elle est très ouverte. On a toujours eu tout type de famille à la maison. Pourquoi elle a réagi comme ça? Et on m'a dit, c'est un âge aussi, une époque où on avait une éducation très traditionnelle. Et entre le moment de le vivre et le dire, il y a aussi une étape.
Olivia, très rapidement, une idée reçue veut que les parents homosexuels ne transmettent pas les mêmes valeurs à leurs enfants. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je suis mariée avec un homme, on a 5 enfants, on est catholique pratiquant. Voilà, donc au moment de la manif pour tous, mon mari a été très très heurté parce qu'il est vraiment plus pratiquant que moi. Et moi, j'ai continué à aller à l'église le dimanche pour montrer que on était bien dans nos baskets. Voilà.
Merci Olivia pour votre témoignage. Merci à tous, merci d'être venus. Merci Marianne Chaillant. Vous reviendrez parce que votre livre est absolument passionnant. Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser? C'est publié aux Équateurs. Autre ouvrage indispensable, Idées reçues sur l'homoparentalité de Martine Gross, est publié au Cavalier Bleu. Merci Marie-Robert d'être passée dans l'émission. Demain, on s'intéresse au nom. On s'intéresse à ce nom qui peut être libérateur. Nous recevrons le philosophe Vincent Delecroix. Dites-nous à quel moment de votre vie un nom a changé votre existence. 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la technique ce matin, Pauline Laverdure et Nicolas Delmas.